Radio Foot International.
Igor Strauss.
Bonjour et bienvenue dans Radio Foot International version estivale. C'est difficile à imaginer aujourd'hui. Pourtant, quand on remonte l'histoire du football, on se dit que décidément, la pratique du sport le plus populaire n'a jamais été chose aisée. À la fin du 19e et au début du 20e siècle, le foot était un sport réservé aux hommes, blancs et de milieux favorisés. Du coup, à ses débuts, le football féminin a été totalement rejeté par une partie de la société. Un pays comme l'Angleterre en fit même son combat en interdisant aux femmes la pratique de ce sport. Et une journaliste anglaise mena une campagne contre les femmes qui jouaient au foot en expliquant qu'elles allaient être confrontées à d'énormes problèmes comme des crises d'hystérie, de la perte de beauté et la perte de leur identité sexuelle. Bigre, rien que cela. Heureusement, les temps ont changé et même s'il existe toujours une forme de défiance et de machisme à l'égard des femmes footballeuses, le foot féminin est de plus en plus apprécié et c'est bien mérité. Petit rappel si nécessaire, l'équipe féminine de Lyon est la seule équipe française, hommes et femmes confondus, à avoir remporté 3 Ligues des Champions et ça, ça mérite le respect.
Bien, je ne sais pas si nous sommes à l'antenne. Je n'en ai pas la moindre idée.
Oh si, si, nous sommes à l'antenne évidemment et nous recevons deux anciennes footballeuses. Sandrine Roux, ancienne gardienne de l'équipe de France, 71 sélections, et ancienne entraîneur des gardiennes de l'équipe de France, aujourd'hui cadre à la DTN, la Direction Technique Nationale. Bonjour Sandrine Roux.
Bonjour Igor, bonjour à tous et à toutes.
Et nous sommes aussi avec Sandrine Mativet, ancienne joueuse, coach et directrice technique de Juvisy, ancienne coordinatrice du pôle France féminin à l'INSEP et aujourd'hui nous nouvelle entraîneur de l'équipe féminine de Dijon. Bonjour Sandrine Mativet.
Bonjour Igor et bonjour à tous et toutes.
Sandrine Mativet, votre plus beau souvenir de football ?
Mon premier titre de championne de France avec Juvisy.
C'était en quelle année, rappelez-nous ?
94-95.
Vous avez tout vécu avec Juvisy, vous hein ?
Oui, pas mal de choses. Ouais.
La Ligue des Champions, tout, des titres. Et vous Sandrine Roux, votre plus beau souvenir de footballeuse ? Qui vous concerne pas forcément d'ailleurs, hein.
On va dire que j'en ai deux, on a le droit à deux.
Allez, deux. Tout est permis aujourd'hui.
Le premier titre de championne de France aussi, parce que voilà, c'est un souvenir mémorable. Et puis la qualification pour l'équipe de France féminine pour le premier championnat d'Europe en 97. Ça aussi, c'était un immense moment de bonheur.
Mais on l'imagine. Lui, c'est un homme, mais il est fan de foot féminin. C'est notre consultant du jour, Saline Bongali de SFR Sport. Bonjour Saline.
Bonjour Igor, bonjour à toutes et à tous.
Soyez en tout cas tous les bienvenus.
Bon, je vous laisse pas, bon esprit, hein, on met pas le pied, convivial, tranquille. C'est fair play, exactement.
Convivial, mesdames, on met pas le pied, attention, hein. Quand même, on n'en est pas là. Avant de s'intéresser à l'histoire du foot féminin, voici les trois infos du jour. Et on commence avec l'Euro des moins de 19 ans femmes, qui commence mal pour les Françaises, puisqu'elles ont été battues par la Norvège 1-0. Est-ce que c'est inquiétant pour elles, Sandrine Roux ? Ça ne fait que commencer, vous me direz.
Oui, mais regardez, les garçons 19 ans qui sont aussi en championnat d'Europe ont perdu leur premier match.
Contre
et ils sont
l'Angleterre.
En demi-finale et ils sont en demi-finale. Donc, voyez. Non, il reste encore deux matchs, voilà, à elles de prendre ces matchs par le bon bout. Et puis, elles ont en tout cas toutes leurs chances de pouvoir se qualifier car elles ont une belle équipe et des très bonnes jeunes.
Salim, vous opinez du chef, c'est une belle équipe, vous la connaissez bien cette génération des jeunes.
Alors on la suit forcément, alors personnellement je la suis un petit peu moins, cette génération des moins 19 par rapport à d'autres des moins 19 où on a pu voir éclore certaines qui sont aujourd'hui en équipe de France A d'ailleurs, mais en tout cas Sandrine l'a dit, il y a certaines joueuses qui aujourd'hui sont amenées à devenir des top joueuses de leurs différents clubs, Guingamp, Montpellier ou autres notamment, et l'exemple masculin est le bon, l'Euro des moins 19 on l'a vu avec les hommes, la première défaite et ils vont finalement jouer une demi-finale demain face au Portugal. Il n'y a pas forcément d'inquiétude à avoir. On verra ce qui se passera lors de la deuxième rencontre.
Bah, la deuxième rencontre, ce sera contre la Slovaquie, qui a été battue 6-0 pour les Pays-Bas. Est-ce que c'est rassurant ou pas du tout, Sandrine Mativet ? Qu'est-ce qu'il faut en déduire ?
Il faut en déduire que de toute façon, elles n'ont pas le choix. Maintenant qu'elles ont perdu leur premier match, il va falloir qu'elles gagnent tout leur match. Même si la Slovaquie s'est fait battre 6-0 par les Pays-Bas, il faut qu'elles fassent fi du résultat et qu'elles s'occupent d'elles-mêmes.
Allez, les Bleuettes, on va les encourager. La joueuse UEFA de l'année qui succédera à l'amende Celia Sazic, désormais retraitée, elle a eu un enfant. On la félicite. 8 Lyonnaises sont nommées, dont 6 Françaises et puis 2 Allemandes également. Qu'est-ce que vous voyez pour ce titre, Salim?
Le problème, c'est que dans les 8 Lyonnaises en question, il y a quand même...
Il y a du beau monde, hein.
C'est un petit peu le souci, effectivement, avec cette équipe lyonnaise.
Elles ont tout gagné, elles ont fait le triplé, hein, Ligue des Champions, Championnat, Coupe de France, donc forcément.
Elles ont enfin réussi à le faire, j'ai envie de dire, parce que on attendait surtout la confirmation avec la Coupe de France. C'est très bizarre, mais la Coupe de France, elle n'arrivait plus à le remporter, ce titre de Coupe de France, justement, alors que la Ligue des Champions le remportait presque plus facilement. C'était assez étrange de voir ça de la part des joueuses de Jean-Michel Aulas. Enfin, l'année dernière, elles ont réussi à le faire. Pour réussir à dégoter une des meilleures joueuses parmi les 8, c'est très compliqué, en fait.
Sandrine Mativet, est-ce qu'une Louisa Nessy, par exemple, pourrait recevoir le titre pour l'ensemble de son œuvre? J'ai envie de dire, elle va arrêter le foot à la fin de... Enfin, elle a arrêté le foot, ça y est. Est-ce que ça pourrait être une récompense pour l'ensemble de sa carrière? Ou ça marche pas comme ça?
Ça marche pas comme ça normalement, mais bon, ça pourrait se faire. Mais je pense que j'ai une petite préférence pour Amandine Henry,
ouais.
Même si cette saison a été un peu chaotique pour elle par rapport à ses blessures, mais par rapport à ce qu'elle produit dans le jeu, je pense qu'Amandine Henry serait bien placée.
Et Amandine Henry.
Je suis d'accord aussi avec Sandrine. J'ai un petit penchant pour Amandine Henry qui a été quand même assez extraordinaire la Coupe du Monde déjà 2015. Et puis elle a été aussi sur le podium l'année dernière. Elle est finie numéro 3 meilleure joueuse européenne. Donc moi j'ai aussi un penchant pour Amandine Henry qui est quand même une joueuse qui apporte énormément à l'équipe.
Et Amandine Henry qui va avoir sa récompense en tout cas sa nouvelle expérience entre guillemets pour elle avec la Major League Soccer. Donc j'ai envie de dire, c'est dans cette droite lignée, elle a réussi à obtenir ce triplé avec l'Olympique Lyonnais, elle sort d'une exceptionnelle Coupe du Monde individuellement parlant, effectivement avec cette MLS aussi, d'obtenir cette récompense. En plus, ce serait une belle récompense pour une joueuse qui n'est pas là pour marquer des buts. Souvent on se focalise sur les attaquantes, ben là c'est une joueuse qui joue un peu plus en retrait, mais qui est si précieuse, évidemment, dans une équipe, et notamment pour l'Olympique Lyonnais.
Mais écoutez, verdict en tout cas le 5 août, puisque un jury de 20 journalistes élira la nouvelle joueuse UEFA. Une nouvelle qui n'en est pas vraiment une, puisqu'elle date de février dernier. La France a atteint les 100 000 licenciés de foot. Alors certes, on est loin de l'Allemagne avec ses 250 000 licenciés, mais quand même, c'est plutôt encourageant, ça, Sandrine Roux, pour le foot féminin français.
Oui, c'est une très bonne chose. Alors c'est vrai que depuis que Noël Le Graët, le président de la fédération, est en place, on va dire que c'est un petit peu son cheval de bataille, hein, il l'a toujours dit. Pour lui, l'avenir du football et de la fédération, ce sont les femmes. Et il le démontre de jour en jour. Il a demandé à Brigitte Henriquez de devenir la secrétaire générale, parce qu'elle est numéro 3 de la fédération, hein, une femme numéro 3 de la fédération, on n'a jamais vu, hein, donc c'est bien, ça prouve bien sa volonté de faire grandir ce football féminin. Et Brigitte Henriquez, donc ancienne internationale, hein, joueuse de football, donc elle sait de quoi elle parle, elle a de l'expérience, et effectivement Brigitte est en charge de tout le football féminin, la fédération, et on voit les résultats que ça donne aujourd'hui avec 4 axes de priorité, un plan fédéral de féminisation qui est très très important et qui commence
ça,
à porter ses
demander.
Fruits.
C'est ce fameux plan de féminisation lancé en 2011. Alors, en 2011, il y avait moitié moins de licenciés. C'était 51 000 les joueuses.
C'est ça.
C'est vraiment ce plan-là qui a fonctionné, vous
pensez ?
Ah
oui, complètement. Alors, c'est vrai que les résultats, l'équipe de France, on sait, hein, que ce soit chez les garçons ou chez les filles, dès qu'on est champion d'Europe ou champion du monde, c'est vrai qu'on explose un petit peu au niveau des licenciés. Mais c'est vrai que la réussite de l'équipe de France à la Coupe du Monde 2011 a fait aussi, a mis en avant ce football féminin. On sortait aussi de Nice-Na, malheureusement, des garçons de 2010. Voilà, on a profité. Alors, ça me fait un peu mal au cœur de dire ça, parce que c'est la même fédération et on ne se gargarisait pas de ce qui s'est passé pour les garçons. Mais c'est vrai que les joueuses ont
on bénéficie on d'un, bénéficie, d'un amour du public.
Voilà, tout à mais fait. Ça, et c'est vrai qu'elles étaient proches du public. C'est vrai qu'elles se donnaient beaucoup sur le terrain. Elles sont courageuses. Elles sont, elles ont montré une bonne image du football. Et c'est vrai que ça a permis effectivement que les gens aussi se rapprochent un petit peu plus de cette équipe féminine. Mais ça n'enlève rien la performance non plus qu'elles ont fait. Hein. C'est pas mais, juste pour leur sourire. Hein.
Bien sûr. Non, mais Sandrine, vous parlez de la Coupe du Monde 2011 qui a eu un effet extrêmement important justement sur la perception qu'a eu le public du foot féminin. On y reviendra évidemment au cours de cette émission. Salim, vous vouliez rajouter un petit mot?
Effectivement, parce que quand j'entends les propos de Sandrine, je suis presque frustré en fait, parce que avec les bons résultats, en tout cas les belles performances de l'équipe de France, vous l'avez évoqué, on a dépassé cette barre des 100 000, mais on aurait pu presque faire mieux encore hein, sur la dernière Coupe du Monde. On se souvient de cette élimination face à l'Allemagne, auparavant également. Donc c'est dire que si c'est facile à dire, réussi à faire un tout petit peu mieux, on pourrait être aujourd'hui à 120, 130, 150, comme quoi il suffit pas de pas grand chose pour que cette fédération française et ce football féminin puisse encore être plus important aujourd'hui.
Allez, c'en est fini pour les infos du jour, on va passer à notre débat.
Maintenant, le plus important, c'est ce qu'on va voir ensemble.
Eh ben oui, il a raison, Pascal Dupraz. L'important, c'est ce qui va se passer maintenant. Elle a accompagné l'étoile sportive de Juvisy jusqu'aux plus hautes marches du football de 71 à 1983. Puis Annie Fortaine s'est intéressée à l'histoire de son sport, une histoire qui débute en 1920.
J'ai pensé pendant longtemps qu'on était les grandes pionnières du football féminin. Et j'ai découvert, en m'intéressant au football féminin, qu'il y avait eu une vague de pionnières avant nous. Donc dans les années 20, après la guerre, jusqu'à peu près dans les années 1935, il y a eu quand même 15 ans de football féminin qui avait une place énorme. Le fait que les hommes étaient partis au front et cette tragédie de la guerre, et que les femmes soient passées de la cuisine au champ, de la cuisine à l'usine, de la cuisine à l'industrie de fabrication des armes aussi. Donc après les horreurs de la guerre, après les angoisses de mort massive vécues par les peuples entiers, j'imagine qu'il y a eu une pulsion de vie extraordinaire qui s'est libérée massivement. Au bout de quelques années folles, tout a repris sa place. Et on a renvoyé les femmes dans la cuisine. On pourrait se demander pourquoi ça a repris effectivement dans les années 70. Ça aussi, ça m'a beaucoup interrogée. On est arrivé en 71, il n'y avait pas de championnat de Paris, par exemple. Il n'y avait pas de compétition. Donc on ne pouvait que jouer entre nous. On ne se posait pas de questions. On se disait, bon, ben voilà, c'est comme ça. Les garçons, ils ont des compétitions et nous pas, quoi. Après 68, a germé l'idée que bon, peut-être qu'on pourrait ne pas rester éternellement derrière la main courante. Sous l'impulsion des joueuses de terrain comme moi dans les années 70 et mes coéquipières, ils ont été obligés, sous l'impulsion des joueuses en fait, de créer le championnat de Paris. Donc on a participé en 72 au premier championnat de Paris. Par contre, dès qu'on a commencé à entrer dans une compétition officielle, c'est-à-dire dès le premier championnat en 72, je me suis rendu compte, moi, que voilà, que c'était pas naturel de jouer au football féminin. C'est la première fois que je me rendais compte. C'est quand le public nous a renvoyé des insultes, des colibets, des moqueries, évidemment extrêmement misogynes, extrêmement sexistes. Et j'avais jamais entendu ça. Et bon, j'ai fait le choix de rester. Et j'ai compris qu'en restant, eh ben, il allait falloir encaisser, accepter, et puis rester, surtout. Et faire évoluer les mentalités, ce qu'on a fait.
Sandrine Mativet, vous avez eu l'impression de devoir voilà, encaisser, accepter au début ou pas?
Ah oui, on s'est moqué pas mal des filles qui jouent au foot. Moi, je raconte toujours une petite anecdote d'une femme qui disait à son fils, tu vas pas te faire battre par une fille. Quand je jouais au foot, même des femmes étaient encore avaient des pensées très archaïques. Donc effectivement, on s'est tout le temps battu, tout le temps pour pouvoir faire ce qu'on voulait. Pour nous, c'était naturel de jouer. Enfin, on se posait pas la question si on avait le droit ou pas. Et donc c'est pour ça qu'on a réussi aussi, parce que les filles n'ont rien lâché et c'est pas grave si on se moquait de nous, quoi. On encaissait et puis on jouait parce qu'on adorait ça de toute façon.
Mais c'est vrai qu'on parle beaucoup du machisme des hommes, et il est là, il est encore là malheureusement, mais certaines femmes également doutaient que les femmes puissent jouer au foot. Est-ce que vous, Sandrine Roux, ça a été quelque chose qui vous a fait douter peut-être? Peut-être racontez-nous comment vous est venue la vocation, comment vous avez voulu souhaiter devenir gardienne de but?
Alors moi j'ai dû me travestir pour jouer quand j'étais petite.
C'est vrai?
Exactement, parce que en fille, je sais pas, j'avais 6 ans, hein, j'étais déjà sur les terrains de football parce que mon frère jouer, mon père entraînait, donc je suivais mon frère partout. Donc à 4 ans, j'étais sur les terrains. À 6 ans, j'avais ma première licence. Alors j'avais le droit d'avoir une licence. J'avais le droit de m'entraîner avec les garçons, mais j'avais pas le droit de faire de compétition. Donc mon père, à ce moment-là, qui était entraîneur, ce qu'on appelle des poussins, hein, des petits, m'a dit, écoute, moi je voulais, j'étais compétitrice. Donc j'ai dit, moi je veux bien continuer le football, mais je veux jouer avec mes copains aussi le week-end. Et donc mon père m'a dit, écoute, on va te cacher les cheveux sous un bonnet l'hiver et sous une casquette l'été. Mais il me dit, par contre, tu peux pas choisir ton poste, il y a que dans les buts que ça passera, parce qu'un gardien avec une casquette ou un bonnet, personne se pose la question, alors que si j'avais joué sur le champ avec une casquette ou un bonnet, c'est vrai que ça aurait pas paru bizarre. Et donc j'ai joué comme ça pendant jusqu'à l'âge de 12 ans, tous mes petits copains, donc moi je joue au Paris FC, hein, où il y avait quand même 800 garçons, tous mes copains donc m'appelaient Stéphane, je jouais sous une licence d'un garçon qui existait, et c'était drôle parce qu'il y a des matchs, alors des fois mes petits copains me disaient Sandrine, puis l'autre qui disait non tais-toi, c'est Stéphane, si on la reconnaît, elle va plus pouvoir jouer avec nous, enfin c'était, moi j'en ai des souvenirs mais exceptionnels, j'ai même des souvenirs où effectivement les maillots étaient moulants, donc moi 10-11 ans je commençais un petit peu à me former, donc je cours un petit peu les épaules pour relâcher un peu mon maillot pour pas faire voir que je commençais un petit peu à avoir de la poitrine. Et il y avait les mamans des garçons de l'équipe adverse qui disaient « Mais je te dis que c'est une fille, mais je te dis que c'est une fille !» Enfin voilà, j'ai joué pendant 5 ans sous fausse licence et j'étais un garçon et je m'appelais Stéphane. Et ce qui est fabuleux aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, bah, les petites filles peuvent s'épanouir, peuvent avoir une licence, peuvent jouer, peuvent faire de la compétition, peuvent jouer entre elles, peuvent jouer avec les garçons. Et ça, c'est magnifique. Aujourd'hui, elles n'ont plus ce souci-là et comme quoi le football féminin a bien progressé. Mais merci aux pionnières.
Évidemment, merci aux pionnières. Mais ceci dit, Salim, il y a encore du machisme, encore aujourd'hui, encore et toujours, malheureusement.
Et même au plus haut niveau, cette année, je suis allé voir plusieurs rencontres de première division, et notamment à la VGA Saint-Maur, donc le club du Val-de-Marne, que vous connaissez bien Sandrine. Et c'est vrai que je suis allé voir régulièrement des rencontres, et malheureusement, vous avez toujours, en plus, lorsque vous avez la VGA qui, je le rappelle, a été reléguée en fin de saison, qui n'a pas eu de très bons résultats, malheureusement. Et donc, qui a été très souvent raillé, moqué par les personnes qui étaient en tribune. Alors, pas par rapport au résultat, mais par rapport au manque de technique ou qu'est-ce. Et là, c'était des moqueries, et en termes, j'ai envie de dire, de gestuelle, mais également, ah, regardez, c'est une fille qui rate ça. Un mec ne l'aurait pas raté. Pardon pour le terme familier, mais c'était souvent ce qu'on entendait. Et malheureusement, ça existe encore, et même en première division. Alors, quand vous descendez encore plus bas, oui, ça existe. Toujours.
En tout cas, tout a été très long à se mettre en place. Au début, il y a des compétitions qui sont organisées, mais non officielles. Il faut attendre 1991 pour qu'il y ait une première Coupe du Monde, c'est ça. 2001 c'est ça. Pour qu'il y ait la Ligue des Champions. On se rend compte qu'il y avait un énorme retard, Sandrine Mativet, pour le foot féminin, pour l'organisation du foot féminin.
Oui, il faut savoir que en 1971, le football féminin était reconnu par la Fédé. Donc, par la Fédération Française de Football, à partir de ce moment-là, là, ça a été un peu plus structuré, mais il est vrai que il faut dire les choses comme elles sont. On se fichait complètement du football féminin à l'époque, c'est tout. Et
mais comment vous l'expliquez, ça, vous, concrètement?
Déjà par rapport à toute l'éducation, on a une éducation très très machiste en France, dans d'autres pays aussi. Donc ces mentalités à faire changer. On croit que le football est un sport de garçons parce que il y a contact. Parce qu'on a tous ces préjugés, tous ces stéréotypes où la femme doit être d'une certaine manière, doit se comporter d'une certaine manière, etc. En gros, c'était sois belle et tais-toi. Donc, il a fallu combattre tout ça. Après 68, effectivement, comme l'explique Annie Fortems, il y a les mentalités qui ont changé. Bon, on connaît 68.
Libération sexuelle, passé, voilà. C'était un peu différent.
Donc,
voilà.
Puis quand ça se passe, il faut quelques années avant que les choses arrivent, avant qu'on voit vraiment des changements de comportement, d'attitude. Mais c'est très très long. Mais de toute façon, le football féminin est le reflet de la femme de ce qu'on pense de la femme dans la société. C'est tout simplement ça. La femme a très peu de part dans la société. On regarde.
Regardez, il y a même des messieurs très haut placés dans le football français qui refusent de parler football avec des femmes sur une grande antenne que je ne citerai pas. On en a encore là, malheureusement. C'était l'année dernière. Hein, le conseiller du président Lacombe. Oui. Du président Wallace.
Oui, mais il y en a moins en moins. Vous voyez, moi,
encore heureux.
J'ai pu croiser Arsène Wenger, on discute football, il est là, on est là, il me dit, toi, tactiquement, tu ferais comment? Face à Arsène Wenger, qui demande à une femme, comment tactiquement il ferait sur telle et telle situation.
Mais c'est un signe d'ouverture.
Comme quoi, vous voyez, après, on pourra pas convaincre tout le monde et on n'est pas là pour convaincre tout le monde.
Bon, mesdames, vous restez avec nous. On marque une petite pause. Après le journal, on se retrouve pour continuer cette émission. À tout de suite.
Je n'ai rien d'autre à vous annoncer. Et par conséquent, je vous rends l'antenne à la maison de l'ORTF.
Notre compagnie au stade Marcel Sopin, un stade qui n'est pas plein, loin de là, il y a environ 15 000 spectateurs qui sont venus assister à cette rencontre.
Radio Foot International.
Igor Strauss.
Bienvenue si vous nous rejoignez pour cette deuxième partie de Radio Foot International version estivale. Et oui, avec les vagues. Aujourd'hui, nous parlons de football féminin avec nos invités, deux anciennes joueuses professionnelles. Sandrine Roux, ancienne gardienne de l'équipe de France et ancienne entraîneur des gardiennes de l'équipe de France. Et Sandrine Mativet, ancienne joueuse de Juvisy et nouvelle entraîneur de l'équipe féminine de Dijon en D2. Et puis, notre consultant, c'est Salim Bonigali. On continue.
J'ai commencé à jouer dans la rue avec les mecs. Quand j'avais 8 ans, personne ne voulait jouer avec moi. Les garçons disaient que j'étais trop petite. Maintenant, tout le monde me veut.
Monsieur qui n'est pas d'accord. Êtes-vous pour ou contre les femmes au match ?
Contre les femmes au match.
Notre place est là, comme tous les sports pratiqués par les filles. Je ne verrais pas pourquoi. C'est un football qui est pratiqué entre filles, qui est là, très très agréable à voir.
L'ambiance dans les vestiaires augurait déjà un match plaisant entre Lyon du Sénégal et Indomitable du Cameroun.
Je vous rappelle qu'aussi le Cameroun c'est une grande équipe et c'est la première fois qu'on joue avec eux. Donc je pense qu'on a les capacités de se qualifier au Cameroun, pourquoi pas.
Les filles ne jouent pas bien au foot, il faut arrêter de nous raconter des histoires. Les femmes au Brésil sont faites pour être féminines, pas pour ce jeu de brut.
Un arrêt de jeu à la mode afghane. L'équipe nationale féminine des moins de 18 ans s'entraîne sur un terrain dépendant du quartier général de l'OTAN. À Kaboul.
Le football, c'est mon sport préféré. J'adore jouer au football.
Allez, Sarah, tu la connais, ta copine. Il n'y a pas de copine ce soir sur le bord du terrain.
Oui, c'est fait. La troisième Ligue des champions dans l'histoire de l'Olympique lyonnais.
C'est magnifique. Merci aux Lyonnaises pour tout le travail accompli.
Moi, ce qui m'a toujours motivée, c'est l'amour du football. Et ben, les filles, c'est pareil. C'est l'amour du football. Avoir envie de réussir et prouver aussi que le football pratiqué par les filles est tout aussi beau que celui pratiqué par les hommes.
C'était l'archive du jour de Guillaume Ploquin. Une réaction, Sandrine Roux, parce que vous avez reconnu certaines personnes dans ce mix concocté par le réalisateur de l'émission.
Oui, notamment Marie-Lou Duringer, hein, une pionnière du football féminin qui a tellement fait pour les femmes et le football. Elle c'était la première femme au Conseil fédéral avec que des hommes, hein, bien entendu. Et peu d'hommes convaincus par le football féminin, ça je peux vous le garantir. Et elle en a avalé des couleuvres, hein. Elle a pleuré plus d'une fois parce qu'on lui disait qu'effectivement, le football féminin à la fédération, hein. De toute façon, l'équipe de France n'a pas de résultats, rien. Mais c'est vrai que les filles n'avaient pas de conditions. Donc c'était difficile aussi de demander des résultats quand les filles n'ont pas les conditions. Donc chapeau à elle de tout ce qu'elle a fait et vraiment un grand merci à Marie-Lou.
Sandrine Mativet, vous leur ajoutez un petit mot ?
Non, je suis tout à fait d'accord avec Sandrine. C'était très difficile. Elle a dû se battre contre effectivement des hommes qui étaient pas du tout persuadés par la chose, mais elle a pas lâché. C'est ce qui fait que on arrive à 100 000 licenciés maintenant, c'est que les femmes ne lâchent pas. Et on est aidé par certains hommes qui sont convaincus, et ça aussi, c'est très bien.
Mais c'est ce que vous disiez, merci aux pionnières. Alors, c'est vrai que pour beaucoup d'observateurs, il y a dans le foot féminin une forme de fraîcheur, de pureté. C'est un peu le football masculin débarrassé de tous ses travers. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Salim Bonigali?
Oui, ce serait peut-être trop beau de dire cela, parce que des tensions, il y en a. Il y a deux femmes sur ce plateau qui ont connu les vestiaires et qui ont pu connaître peut-être des tensions aussi dans les vestiaires.
Ah, mais la compétition et la gagne, ça peut engendrer évidemment des problèmes, oui. mais sur le fond.
Après, alors, ça dépend aussi. J'ai l'impression que les résultats font que parfois on ne critique pas aussi, ou plutôt, tout à l'heure a été évoqué par exemple la période Nice-Na avec l'équipe de France masculine.
Et
effectivement,
2010.
Quand il y a eu ça, on s'est retourné et on a vu une équipe pleine de fraîcheur avec des résultats aussi. Et on a commencé effectivement, en tout cas certains ont commencé à vraiment aimer cette équipe de France féminine avec la Coupe du Monde 2011 aussi, les bons résultats. Rappelez-vous le journal L'Équipe qui enfin avait fait une sur le football
féminin. Il y en a eu trois
féminin,
même sur pendant la Coupe du Monde 2011.
Exactement. Donc enfin, on se tournait effectivement vers ça puisqu'il y avait cette équipe de France masculine. Mais après, je prenais l'exemple aussi de la dernière Coupe du Monde et il y a eu un tel une telle déception à l'issue de cette Coupe du Monde. Alors certes, vous allez me dire éliminé par l'Allemagne, mais éliminé dans les conditions où la France devait absolument s'imposer et n'a pas réussi à le faire. La déception a cassé en fait ce truc et au final, des tensions ont été évoquées. Certaines joueuses se sont exprimées dans la presse. Une joueuse a été écartée du groupe, on le sait, Gaëtan Tinet. Enfin, au final, les tensions, et aujourd'hui, c'est cette belle image qu'on peut avoir du football féminin n'existe pas tout le temps non plus.
Non, mais ça, c'est ce qui se passe dans le vestiaire. Là, je parlais de la mondialisation, de la médiatisation et des excès liés à l'argent du foot masculin, des dérives d'aujourd'hui. Heureusement, j'ai envie de dire, on n'en est pas encore là dans le foot féminin, Sandrine Mathivet.
Non, on n'en est pas encore là parce que je pense que les sommes qui sont allouées au football féminin ne sont pas aussi importantes, loin d'être aussi importantes que le football masculin. D'ailleurs, dans le football masculin, ça en est même de l'indécence à un certain moment. Donc, mais je pense qu'il faut qu'on fasse très attention à ça, à ce que l'argent ne pourrisse pas cette fraîcheur. Mmh. On peut y arriver très très rapidement. Je pense qu'on peut y arriver très rapidement. Donc, il faut faire très attention à ça.
Il faut veiller aux joueuses. Sandrine.
Oui, je voulais rebondir sur ce que disait Sandrine. Oui, être très vigilant, ne pas prendre les travers, entre guillemets, des garçons, même s'il commence à y avoir de l'argent et les filles, notamment en équipe de France, gagnent très bien leur vie, hein, par rapport à d'autres sportifs de haut niveau. Ceci étant, on a des jeunes aussi aujourd'hui qui ne veulent jouer que pour l'argent, qui veulent être joueuses professionnelles, sachant que tout le monde n'y arrivera pas. Quand on voit des jeunes à 18-19 ans arrêter leurs études pour signer un contrat fédéral à 800 euros... Moi, je vous cache pas que ça me fait un petit peu peur. Donc voilà, attention, attention à ça, attention aux dérives. Maintenant, toutes les jeunes ont un agent, ont un avocat. Ça prend des proportions pas toujours évidentes. Et attention, voilà, parce que même si les joueuses gagnent bien leur vie aujourd'hui, ce ne sont pas les garçons. Il va falloir qu'elles travaillent après leur année de joueuse professionnelle pour celles qui y arriveront, hein, parce qu'aujourd'hui il y en a quand même pas beaucoup quand vivent vraiment. Et il va falloir quand même qu'elles travaillent après. Donc vigilance, je crois qu'il faut vraiment qu'on fasse attention. C'est pas l'Eldorado, le football féminin. Quand je vois, je vous dis que beaucoup de jeunes joueuses qui veulent leur projet d'avenir, c'est être joueuse professionnelle.
Juste gagner de
l'argent,
ouais.
Donc méfiance.
Et comme le dit Sandrine, effectivement. J'ai eu l'occasion de discuter régulièrement avec Cécile Locatelli, une personne importante également dans le football français qui, elle...
Bah, une des rares entraîneurs, elle est moins de 17 ans ou moins de 19 ans, c'est ma mémoire.
Moins de 16. Moins de 16. Et elle est responsable du pôle espoir de notre pôle fédéral à Vaux-en-Velin.
Mmh. Et en l'occurrence, elle-même constatait à cet âge-là, hein, on a donné les âges, 16 ans, 17 ans, déjà des jeunes filles qui ne pensent pas qu'à s'amuser, certaines si, mais d'autres pensent à après. On est Vaux-en-Velin, donc c'est-à-dire qu'on n'est pas loin de Lyon, qu'on n'est pas loin donc des potentielles sommes d'argent touchées par certaines joueuses. Et oui, on pense déjà à ça à 16-17 ans dans le football féminin.
Allez, on part en Côte d'Ivoire pour parler de foot féminin sur le continent africain avec Clémentine Touré. Bonjour Clémentine Touré.
Oui, bonjour.
Clémentine, après une carrière passée entre la Côte d'Ivoire et le Ghana et 22 sélections avec les éléphantes, hein, entre 1995 et 2002, vous êtes devenue entraîneur, mais ce ne fut pas une mince affaire. Racontez-nous vos débuts, Clémentine.
Ok, merci. Il faut dire que c'est toujours avec beaucoup d'émotion que je parle du football féminin. Voilà, mais à mon niveau, ça n'a pas été facile. Il y avait d'une part les parents et de l'autre part les études. Voilà, donc au niveau des études, par la grâce de Dieu, voilà, c'était ça la priorité pour mes parents qui voudraient vraiment que je sois d'abord à l'école et le ballon, c'est juste pour la passion. Mmh. Donc, c'est ce qui a été fait, oui, jusqu'en classe de terminale, lorsque j'ai été admise au baccalauréat. Voilà, c'était une opportunité pour moi de jouer au football. Et donc, étant à l'Institut National de la Jeunesse et des Sports, une école pour être professeur d'éducation physique et sportive, voilà, donc, je me suis donné à fond. Et j'ai pu participer à certains championnats, notamment au niveau de la Côte d'Ivoire. Et aussi à l'extérieur.
Ben c'est ça, en fait, vous avez été nommé entraîneur de l'équipe féminine de Côte d'Ivoire en 2006. Et là, ça a été un tollé au niveau de la presse, ce qui fait que vous avez dû partir en Guinée équatoriale, où vous avez remporté la CAN en 2008. Ça a été dur, les colibets de la presse ivoirienne, lorsque vous avez été nommé.
Oui, il faut dire, J'ai encore des jumeaux de 2006 où, oui, j'avais été traité d'une alimentée. Et donc, j'étais la jeune étudiante qui venait à peine de sortir. Et puis, comment me confier une équipe nationale féminine? C'était d'abord difficile. J'étais adjointe d'une autre, du nom de Koudounou Adelaïde. Et donc, nous avions vraiment été longtemps critiqués. C'était vraiment difficile de travailler. J'ai pratiquement pas pu travailler. Et je suis retournée entraîner un club du nom de Amazon de Kumasi. C'est avec ce club que je suis allée à un tournoi au Burkina Faso. La Côte d'Ivoire a été invitée. Et je suis plus précisément le club des Amazones de Kumasi. Donc, à ce tournoi, oui, il y avait la Guinée équatoriale. Et puis voilà, c'était vraiment la curiosité de trouver une femme qui entraînait une équipe. Donc voilà comment j'ai été approchée par les dirigeants des Aguilas Verdes de la Guinée équatoriale dans un premier temps. C'était un club.
Avant de revenir après entraîneur de la Côte d'Ivoire, on va y revenir, mais tout d'abord Sandrine Mativet, on se rend compte effectivement que en Côte d'Ivoire et en France, les problèmes sont les mêmes. Une entraîneur de football, une femme entraîneur, ce n'est pas courant.
Non, on pense que déjà les femmes ne savent pas parler de foot, ne connaissent rien en foot, ne savent pas gérer un groupe. Donc c'est tout cette mentalité, cette éducation qu'on l'on reçoit quand on est petit et que l'on voit au fur et à mesure que l'on grandit. On est tous à peu près élevés de la même manière. Hein. La femme a ce rôle-là, l'homme a ce rôle-là. Et tant qu'on sortira pas de ces stéréotypes, de ces préjugés, eh ben, il va falloir que les femmes se battent pour pouvoir accéder à des responsabilités.
Sandrine Roux, un petit mot.
Oui, mais encore une fois, on voit que ça évolue quand même dans le bon sens, puisqu'on a quand même Corinne Diacre qui est aujourd'hui entraîneur de Ligue 2.
Avec de très bons résultats, avec un tout petit budget,
elle
fait des merveilles.
Vous me l'aurez dit il y a 2-3 ans, j'y aurais pas cru.
Ça, c'est donc, un autre aspect de la profession, c'est une femme qui entraîne des garçons.
Oui, bien
alors,
sûr.
Ça, c'est exceptionnel.
Oui, enfin, je disais dans
clairement,
voilà, dans le comment dire.
De côté, de façon femme générale, qui entraîne. Ouais,
voilà, femme qui entraîne, aujourd'hui, voilà, ça progresse, puisqu'aujourd'hui, une femme entraîne des pros, donc c'est quand même pas rien. Alors, même si ça a été compliqué au départ pour elle, hein, voilà. Mais elle a prouvé, alors ça a été compliqué, mais bien sûr, de toute façon, elle le dit elle-même, hein, une femme doit toujours plus prouver qu'un homme, mais aujourd'hui, elle est tranquille, on la laisse tranquille, parce qu'elle commence à faire ses preuves. Elle a fait une très bonne saison l'année dernière avec Clermont, et je pense que Corinne n'a pas fini son parcours.
En tout cas, Clémentine Touré, vous également, vous avez fait vos preuves. Avec vous, la Côte d'Ivoire a été troisième de la CAN 2014. Du coup, vous avez emmené les éléphantes à la Coupe du Monde 2015. Malheureusement, ça ne s'est pas très bien passé avec une déculottée face à l'Allemagne. Mais voilà, vous êtes là, vous avez prouvé. Est-ce que le modèle à suivre, ce n'est pas le Nigeria, qui a participé à toutes les CAN, toutes les Coupes du Monde féminines?
Il faut dire, oui, au niveau du continent africain, le Nigeria est resté très constant. Voilà, présent dans toutes les compétitions et voilà, les joueuses nigérianes, elles ont vraiment prouvé sur le continent africain.
Eh ben oui, en 9 éditions de la CAN, elles ont remporté 7 victoires à la CAN, c'est incroyable.
Oui, sur 9, elles ont remporté 7 fois. Et les JO précédents, même si en 2016, le Nigeria n'a pas pu se qualifier, mais les années précédentes, toutes les Coupes du Monde, le Nigeria a toujours été présent et représenté l'Afrique. Voilà, c'est le Nigeria est une grande nation et un modèle pour nous pays africains. Et il faut dire aussi, en plus du Nigeria, il y a le Cameroun qu'il faut aussi féliciter, qui reste également un pays très constant. Il y a aussi l'Afrique du Sud qui fait un très beau travail. Voilà, et également, il y a des pays du Maghreb, tels l'Algérie. Voilà, il y a quand même une belle révolution au niveau des pays africains.
Mais Clémentine Touré, pardonnez-moi de vous interrompre, mais c'est vous parlez alors du Cameroun, on peut parler d'une joueuse Gaëlle Nganamouit qui a été élue meilleure joueuse, elle est absolument exceptionnelle. On peut parler de Perpetua Nkwocha, la Nigériane, qui est l'ancienne meilleure joueuse du continent, et on se rend compte que ce soit le Nigeria, le Ghana, l'Afrique du Sud, tous ces pays mis en avant, bien ce sont des pays dans lesquels le foot est appris à l'école, et ça fait peut-être toute la différence.
Oui, on pourrait bien le dire, mais je pense aussi que La FIFA a beaucoup aidé les pays africains. Les différents coups de la FIFA ont été très bénéfiques pour beaucoup de pays. Donc, même la Côte d'Ivoire, je pourrais dire, avec la Fédération ivoirienne qui, depuis un certain temps, a fait du football féminin sa priorité. Donc, je pense que tout cela, c'est l'événement de la FIFA dans les pays africains à donner plus de coups, à donner plus de considération au football féminin.
Eh bien, merci infiniment. Merci beaucoup, Clémentine Touré, d'avoir été avec nous. Et pour tous les amoureux de foot féminin, eh bien, je vous rappelle que la prochaine CAN féminine aura lieu du 19 novembre au 3 décembre au Cameroun, sans la Côte d'Ivoire, malheureusement, éliminée de justesse par l'Égypte. Mais en tout cas, nous, sur RFI, on suivra la compétition. Allez, 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 dans Radio Foot International, version estivale, avec nos invités, les anciennes footballeuses Sandrine Roux et Sandrine Mativet. Et nous accueillons maintenant Sébastien Bonijol du service des auditeurs de RFI. Sébastien, la finale du tournoi de Lucenda en République démocratique du Congo s'est jouée ce samedi. On va évidemment revenir sur le match, mais tout d'abord un petit rappel, Sébastien. C'est le quatrième club RFI implanté dans un camp de réfugiés. Très concrètement, qu'est-ce que cela rapporte, le ballon dans les camps de réfugiés ?
Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bonjour Igor. Le ballon permet aux réfugiés tout simplement d'égayer leur quotidien, de leur apporter une distraction, de se changer les idées. Ce tournoi a permis à ces réfugiés de se défouler, d'évacuer certaines pulsions et surtout de les occuper, car justement un des fléaux principaux qui règne dans les camps de réfugiés, c'est l'oisiveté. Et bien sûr de créer un moment de solidarité autour du football, car aussi le football est un facteur de rapprochement qui peut faire tomber les barrières.
D'ailleurs, alors la finale, elle opposait les citadins au FC Jaguar, voilà, et ce sont ça. Les citadins qui se sont imposés.
Exactement.
Bravo à eux d'ailleurs. Hein.
Bravo à eux, bravo à tous d'ailleurs. J'en profite pour féliciter de l'ensemble des clubs RFI dans le monde qui ont participé à cette troisième édition, qui je le rappelle c'était à Bib Bay, que tout le monde connaît à Radio Foot, notre parrain. Donc effectivement le tournoi s'est bien déroulé dans le camp. Il y a eu 14 équipes qui se sont affrontées, dont une équipe de la police. Malheureusement, comme il était prévu initialement, il devait y avoir une équipe féminine qui devait participer à ce tournoi, mais elles n'ont pas pu y participer. Alors effectivement, le score 0-0, un match très accroché, assez équilibré, pas de vilains gestes, rien à déplorer, malgré le terrain qui était un peu impraticable, donc ça n'a pas favorisé.
Allez, on imagine que ça devait être compliqué dans un camp de réfugiés, le terrain, effectivement.
C'est ça, là. Donc en même temps, il n'y a pas eu de blessure, parce qu'effectivement, avec les faux rebonds qu'il pouvait y avoir, c'était difficile de pratiquer un beau football. Mais effectivement, donc c'est l'arraché, c'est l'équipe des citadins à la dernière seconde qui met un but direct sur corner, apparemment. Ça a été le plus beau but du tournoi. Félicitations à eux.
Eh bien, félicitations, je crois qu'on peut les applaudir. Bravo les citadins, on espère que vous nous écoutez, on est fiers de vous. Merci beaucoup Sébastien Bonijol, on espère que vous viendrez nous présenter la prochaine édition.
Avec plaisir.
Merci beaucoup. Sandrine Roux, vous avez participé à la Coupe du Monde des sans-abri, c'est ça ?
Oui, j'ai eu cette formidable chance, parce que je peux le dire, ça a été une magnifique expérience de faire partie de la sélection, hein, pour sélectionner les joueurs français, voilà, pour la Coupe du Monde des sans-abri en 2011, je crois, qui a eu lieu en France. Et c'était une immense fierté, et vraiment une belle expérience de voir tous ces hommes, hein, parce que c'était des hommes, voilà, qui à qui on tend la main, qu'on aide du mieux qu'on peut et avec beaucoup de courage. Certains, bah, se sont réinsérés, donc ça c'est important parce que l'objectif il est quand même là, hein, qu'on les remette dans la société, qu'ils retrouvent confiance en eux. Donc c'était un magnifique tournoi organisé par la France et chapeau à toutes ces initiatives, que ce soit dans les camps de réfugiés ou autres. Je crois que un petit peu de bonheur, ça fait de mal à personne.
C'est effectivement une belle chose qu'RFI a fait dans ces camps de réfugiés. Oui, Sébastien, rapidement.
Oui, je voulais citer un des joueurs qu'on avait rencontré sur place quand on était avec Annie, qui nous disait que ce tournoi, c'était une bulle d'oxygène, effectivement, dans un océan de tracas. Voilà.
Le foot fédérateur et rassembleur.
Et unificateur des peuples.
Voilà. Et unificateur des peuples. C'est tout ce qu'on aime, nous, sur RFI, évidemment. On en revient à l'actualité immédiate avec les Bleus, hein, les filles, qui ont la tête tournée vers les Jeux Olympiques de Rio et leur rêve de podium. Quels sont les atouts de cette équipe, Sandrine Mativet?
Je pense que c'est leur milieu de terrain. Qui se connaît depuis des années. Et je pense qu'on a un milieu de terrain très fort une ligne défensive aussi qui travaille bien et qui a de l'expérience. Maintenant, il faut qu'on accroche une médaille. Effectivement, je pense que c'est important qu'on accroche une médaille pour pouvoir.
Mais vous y croyez à cette médaille justement?
Oui, parce que les derniers résultats.
Elle n'était pas passée loin la dernière Coupe du Monde contre l'Allemagne, manque de chance.
Il faut vraiment que l'on arrive à avoir cette médaille. On a acquis de l'expérience par rapport aux dernières compétitions, la Coupe du Monde, le Championnat d'Europe. Donc il faut qu'on passe ce palier pour ensuite encore avoir plus de jeunes filles qui viennent au foot, parce que si on a une médaille on va parler du football féminin, et ça serait
excellent pour la promotion du foot féminin en France, évidemment. Est-ce que mesdames vous connaissez les expressions parfois cocasses utilisées dans le football? Eh bien, on va voir ça tout de suite avec le terme technique expliqué par Jean-Philippe Bouchard, journaliste à l'équipe et auteur des Mots du Sport.
Je crois qu'il serait temps, messieurs, de tenir le langage du bon sens.
Les gants en peau de pêche. L'expression date du début du XXe siècle, une époque où les gants des gardiens de but n'étaient pas composés de matières synthétiques comme aujourd'hui. Ils étaient faits de cuir et de peau de chamois pour la partie recouvrant la paume de la main. Ils étaient solides et rugueux, bref, imposants. De la même façon qu'aujourd'hui, avec les différents rembourrages et les superpositions de matériaux, les gardiens arrivent à gagner plusieurs centimètres d'envergure grâce à leurs gants. À l'inverse, la peau de pêche est fine, fragile. Dès lors, si on dit d'un gardien qu'il avait sorti ses gants en peau de pêche, c'est qu'il a complètement raté son match, qu'il a commis de nombreuses bourdes, comme si la peau de pêche s'était déchirée et l'avait conduit à relâcher le ballon. L'expression est un peu désuète et on l'emploie de moins en moins. Mais elle n'a pas disparu et ressurgit régulièrement, notamment à propos des performances des gardiens anglais, les plus grands adeptes des gants peau de pêche.
C'était le terme technique de Jean-Philippe Bouchard et ça vous a bien fait rire, Sandrine Roux, ancienne gardienne de but.
Oui, c'est vrai qu'à l'âge de 6 ans, je vous avoue, il n'y avait pas les gants qu'il y avait aujourd'hui. Et c'est vrai qu'on avait des gants, on peut dire en peau de pêche, parce que quand il faisait chaud, ça glissait. Quand il y avait de la pluie, qu'ils étaient trempés, ça glissait aussi. C'était des petits picots dessus, vous savez, les raquettes de tennis, là, c'était ça, c'est ce qu'on avait sur les gants. Et j'avoue que valait mieux avoir une vraie prise de balle, parce que les gants nous aidaient pas beaucoup. Contrairement à aujourd'hui où c'est vrai qu'il y a eu un énorme progrès de ce côté-là, même si les gants ne font pas tout.
Aujourd'hui, il y a eu un progrès au niveau de l'équipement, évidemment, puis au niveau du football, avec la professionnalisation des équipes féminines, Sandrine.
Oui, l'équipement a beaucoup changé. Moi, par rapport aux chaussures, effectivement, mais surtout par rapport au ballon. Le ballon, moi, je me rappelle avoir quand même fait des têtes avec des ballons qui prenaient l'eau. Donc, ils pesaient très lourd. Maintenant, ils prennent plus l'eau et ils sont beaucoup plus légers. Et d'ailleurs, les gardiens se plaignaient souvent de la trajectoire du ballon, parce que elle était pas rectiligne et quelquefois ils avaient un peu de mal à lire la trajectoire. Donc il y a plein d'évolutions. En fait, c'est toujours pour aller plus vite, pour frapper plus fort, etc. Pour
voilà, plus haut, plus loin, plus fort. Mais c'est un peu la devise olympique.
Mais c'est vrai que les tenues des joueuses aussi ont bien évolué et ça c'est important parce que on est féminine, parce qu'avant effectivement il y avait une taille L ou XL pour tout le monde. Enfin moi je m'en rappelle en équipe de France notamment où on avait les mêmes maillots que les garçons et je peux vous dire que ça nous arrivait aux genoux, c'était pas très sexy même pour nous. Enfin on n'était pas très à l'aise là-dedans et c'est vrai que les marques ont fait énormément d'efforts aujourd'hui. Voilà, il y a des coupes féminines, il y a des shorts féminins.
Il y a pas de raison que les femmes ne bénéficient pas des avancées de la technologie et du matériel.
Vrai que c'est quand même plus agréable et pour elles et pour tout le monde.
Salim Bongali, vous avez à peine 30 secondes pour nous parler de votre équipe improbable, celle qui n'aurait jamais dû gagner. C'est une équipe féminine, j'imagine.
Oui, une équipe féminine. Quoique, je détourne un petit peu mon propos par rapport à un souvenir improbable. Coupe du Monde 99, il est 1h du matin, je suis à l'île Maurice. Décalage horaire oblige, il y a la finale de la Coupe du Monde féminine États-Unis-Chine. 1h du matin à l'île Maurice, du football féminin. Je vous assure, dans ma petite ville en l'occurrence, on était plus de 1000 à regarder ce jour-là à 1h du matin. Ça peut
paraître. C'était quoi votre petite ville?
États-Unis, c'était Rosebel.
Ah, Rosebel.
On était 1 000 000 à regarder cette finale États-Unis-Chine et à regarder la séance de tir au but avec Brandi Schastein à l'époque qui avait marqué le tir au but décisif. Enfin, un moment assez invraisemblable.
Eh bien, écoutez, merci pour ce match improbable.
S'il vous plaît, vous quittez la pelouse. Vous pouvez partir d'ici, s'il vous plaît.
Ah, désolé, on doit quitter la pelouse. C'est la fin de cette émission. Merci Sandrine Roux, merci Sandrine Mativet, merci infiniment Salim Bongali d'être passé dans cette émission. Demain, nous parlerons d'un club mythique, même s'il évolue toujours en Ligue 2. Ce club, c'est le Red Star de Saint-Ouen. En attendant, avec Florence Ponce et Guillaume Ploquin, on vous souhaite une excellente journée. À suivre, un nouveau journal sur la Radio du Monde.
Les plaisirs du jour.